plus savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin.
Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui fait qu'un film traverse l'espace et le temps, qu'il nous parle de nous, de notre humanité, indépendamment de la langue, de la couleur de peau, de l'âge? Il y a évidemment l'aspect formel, l'esthétique, mais aussi une grâce indéfinissable, cette quintessence de l'humanité. Le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski possédait ce supplément d'âme. La Cinémathèque française lui consacre une rétrospective en ce mois d'octobre, tandis que quatre de ses films ressortent en salle en version restaurée. Pour en parler, nous recevons ce samedi la comédienne Irène Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir nous parler du cinéma de Kieślowski, vous qui l'a fait tourner dans La double vie de Véronique et le troisième film de sa trilogie républicaine, c'est Rouge, hein, son dernier long métrage. Vous nous parlerez également de vos toutes nouvelles responsabilités à la tête de l'Institut Lumière de Lyon, où vous prenez la succession de Bertrand Tavernier. À l'affiche de notre cinéma aujourd'hui, nous ferons aussi le point sur le 27e FESPACO à quelques heures de la cérémonie de clôture avec l'envoyé spécial de RFI, Guillaume Thibault. En 1991, le grand public en France découvrait un cinéaste polonais de ce bloc de l'Est récemment libéré du joug soviétique, Krzysztof Kieślowski. Les cinéphiles les plus affûtés connaissaient évidemment ses documentaires et surtout sa série de 10 films pour la télévision, le Décalogue, éclairant les 10 commandements bibliques. Alors vous, Irène Jacob, vous tenez le premier rôle de La double vie de Véronique. Vous étiez toute jeune au début des années 90. Vous débutiez, enfin, bon, même si vous aviez déjà tourné notamment sous la direction de Louis Malle dans Au revoir les enfants. Mais est-ce que vous connaissiez déjà le cinéma de Kieślowski quand vous avez accédé à accepter ce rôle?
Oui, alors déjà je suis toute émue d'entendre ces quelques notes de la bande originale de Zbigniew Preissner, parce que vraiment cette musique de La double vie de Véronique et puis les musiques qu'il a composées après, tout en collaboration sur les films de Krzysztof, sont vraiment tellement belles. Et il avait reçu le disque d'or pour la musique de La double vie de Véronique. Ça avait été vraiment une musique très très forte, et de l'écouter là comme ça, ça m'a beaucoup émue. J'avais eu la chance de voir Brève histoire d'amour, qui était sortie au cinéma, et j'avais adoré le film, mais jamais j'aurais pu imaginer rencontrer un cinéaste polonais. Il y avait encore le rideau de fer, enfin, on pensait pas du tout comme ça à ces collaborations Est-Ouest, et les frontières étaient fermées. Et puis, Margot Capelier, une casting director formidable, m'a proposé effectivement de le rencontrer, et on était plusieurs comédiennes, et à cette époque-là, on pouvait pas facilement comme ça regarder un film sur un lien ou le trouver en DVD, donc c'était formidable que j'avais été au cinéma voir comme ça Brève histoire d'amour, et j'étais très émue de rencontrer ce réalisateur.
Alors, vous tenez le premier rôle donc de La double vie de Véronique, et comme son titre l'indique, c'est en fait deux rôles en un. Hein. Il y a Véronica en Pologne et Véronique en France. Ces deux jeunes femmes ont beaucoup de points communs. Elles chantent, elles ont l'avenir devant elles, un père chacune, un père aimant, mais elles ne se connaissent pas, tout en devinant quand même être reliées à un double. En fait, elles partagent la même âme.
Papa, je suis amoureuse. Je suis vraiment amoureuse.
Je le connais?
Non. Et moi non plus.
Je comprends pas, là. Tu m'expliqueras?
Oui, dès que j'aurai compris. Il y a pas longtemps, j'ai eu une drôle d'impression. J'ai senti que je me retrouvais seule. D'un coup. Pourtant, rien n'a changé.
Quelqu'un a disparu de ta vie.
Oui, c'est ça. Quand maman est morte, Tu n'as pas eu ce sentiment?
Mais là, quelque chose avait vraiment changé. Puis, il y avait toi, tu étais toute petite. Il fallait que je te tienne par la main.
Oui, tu me tenais par la main.
Un extrait de La double vie de Véronique Irène Jacob. On entend ici un dialogue, mais il faut le... faut le dire, et c'est ce qui m'a frappé en revoyant ce film, c'est un film quand même qui repose beaucoup sur les sensations, en fait, sur les images, beaucoup plus que sur les mots.
Oui, j'avais oublié cette scène. Je suis très émue de la réentendre, et puis la voix de Claude Duneton,
qui joue votre père français.
Voilà, exactement. Et oui, très étonnée de ce dialogue. En plus, je crois que quand j'ai rencontré Christophe Kieslowski, il m'avait dit voilà, il a fait des films très engagés, politiques, de société. Ensuite, il a abordé le décalogue. Il disait voilà, j'ai fait beaucoup de rôles masculins principaux, puis des rôles féminins, puis maintenant j'ai envie de prendre une jeune femme. C'est la première fois que j'aurai une jeune femme comme rôle principal. Sa fille venait d'avoir 18 ans, il y avait aussi ça, et il m'a dit j'aimerais faire un film sur les pressentiments, sur cette sensation que parfois on se sent très accompagné dans la vie et parfois complètement lâché. Qu'est-ce que c'est que la solitude, enfin une solitude d'accompagné ou non, enfin ce sentiment de ces intuitions. C'est quelque chose d'impossible, d'invisible. Quand on vous demande comment ça va, on dit pas j'ai eu un sentiment. Maintenant, on ne parle pas de ça. Ce sont les choses qui ne font pas partie de la conversation. Et il disait, du coup, ça m'intéresserait d'en faire un film, justement, pour essayer de filmer ce qui n'est pas visible, en fait, pour moi. D'ailleurs, c'est vraiment le cinéaste de l'invisible et puis de l'intime. Et donc, La double vie de Véronique tient une place tout à fait particulière dans son cinéma. Pour cette raison, c'est un film qui a une veine très poétique, même si lui disait toujours qu'il fallait au contraire l'incarner sans cesse pour ne pas avoir l'air d'être juste dans la poésie, mais au contraire de toucher quelque chose de très tangible. Ce qui l'intéressait, c'était le mystère du quotidien, le mystère de ce qui existe, en fait. Et donc, il était vraiment très engagé d'en faire un film très concret, bien qu'il soit complètement poétique. Il disait que d'ailleurs, pour ce film, il avait fait 15 montages différents. Ce qui était la première fois que ça lui arrivait. C'est-à-dire que le scénario pouvait très bien commencer en mettant la première scène à la fin et puis au milieu. Est-ce qu'on intercalait les deux vies ou est-ce qu'on les faisait complètement séparer? Enfin, il a essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a été vraiment un film sur lequel il a beaucoup, beaucoup cherché. Et ce film, aujourd'hui, c'est vrai, a été reçu par beaucoup de spectateurs d'une façon très personnelle, très intime, avec une interprétation très singulière pour chacun.
C'est un film presque métaphysique, hein. Quand même, c'est un film aussi vous le disiez, mais un peu sur le mystère. Il y a une dimension presque de... Je crois que Kieslowski lui-même n'était pas croyant, mais son co-scénariste, Christophe Piesewicz, lui, je crois, l'est, enfin, chrétien. Mais il y a toute une dimension de recherche presque de la... Parce que ce sont donc deux jeunes femmes qui ne se connaissent pas, mais qui ont le... Il y a une scène d'ouverture assez marquante.
Ouais.
Oui, il y a la boule avec les étoiles qui reflète, ouais. Et qu'elles ont toutes deux. Mais il y a Véronica, la polonaise, qui aperçoit son double français.
Oui, voilà, au milieu du film, effectivement. Pas au milieu du film, mais ouais, vers un quart d'heure, comme ça. Et il y a deux femmes, donc Véronique et Véronica. Une est polonaise et une est française. Et la première vit sa vie passionnément dans une course folle. D'ailleurs, la bande-annonce était « Où court-elle? Où va-t-elle? Après quoi court-elle ?» En fait, on voyait juste une femme qui court. Et puis, dans cette course, elle a beaucoup de talent, elle chante, mais elle a aussi un souffle au cœur. Et elle va très vite, après 19 minutes, mourir d'une crise cardiaque en chantant dans un concert. Et on est surpris, on se dit mais qu'est-ce qui se passe alors si l'héroïne part comme ça après 19 minutes? Mais voilà qu'on se retrouve en France et on retrouve une héroïne, une autre, Véronique, qui elle vit sa vie de façon très hésitante. À chercher, à attendre, à écouter, qui n'est pas du tout dans cette même course-là et qui a l'impression que quelque chose lui manque, sans savoir dire ce que c'est. Alors c'est un état dans lequel beaucoup de gens se trouvent, en fait. Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et c'est comme s'il y aurait une réponse quelque part, c'est ça le poème de La double vie de Véronique, mais au fond, ça nous arrive souvent parfois qu'on se sent dépossédé de quelque chose dont on ne saurait pas dire quoi, ou la nostalgie de ce qui n'est pas arrivé, ou ce genre de choses très étonnantes comme ça, qui pourtant, on se demande comment se ressaisir de la vie. Et puis, C'est vrai que vous avez mentionné, donc il y a cette scène où elles se rencontrent toutes les deux. Il y en a une, Véronica, la polonaise, qui la voit, c'est au milieu d'une manifestation à Solidarność.
Et qui semble comprendre quelque chose.
Oui, parce
qu'elle... En tout cas, qui se place de façon à pouvoir être photographiée, effectivement, par cette touriste française qui prend des clichés d'une manifestation. On est avant, donc, 89.
Ouais. Exactement, elle voit ce bus de touristes, très rare à l'époque, avec une jeune femme, dont au milieu de plein d'autres jeunes étudiants, et elle se rend compte que c'est son sosie, et elle la regarde, et il y a cette très très belle scène tournée par Sławek Idziak, où on ne sait plus comment, on a l'impression que toute la place se met à tourner, on ne sait pas exactement où on est, et c'est tellement bien exprimé au niveau de la caméra, et puis il y en a une qui regarde l'autre, et l'autre qui ne la voit pas, mais qui la prend en photo. D'ailleurs, c'est touchant, parce qu'aujourd'hui, on prend tellement de photos de tout, l'image prend tellement d'importance, et on ne voit pas. Et c'est ce qui arrive à Véronique, c'est-à-dire qu'elle prend la photo, et plus tard dans sa vie, elle se rend compte qu'elle a pris cette photo, et qu'elle l'a même pas vue, et après tout, est-ce qu'elle passe à côté de sa vie, est-ce qu'elle ne voit rien de ce qu'elle fait, et c'est un petit peu tout d'un coup cette façon dont elle va se ressaisir de la vie. Mais dans cette scène-là, Krzysztof Kieślowski m'avait proposé pour le personnage de Véronica, la polonaise, qui aperçoit son double, de sourire très légèrement. Et j'avais trouvé que c'était une grande indication pour moi, pour ce personnage, parce que je m'étais dit, ah voilà, elle voit quelque chose de complètement troublant, qui pourrait être même, qui pourrait faire peur, et puis elle esquisse un sourire, et du coup ce sourire, ce petit sourire face au mystère, face à l'inimaginable, à l'autre barrière, puisque cette jeune femme va dans un bus qui ira vers la France, et enfin où il y avait les frontières fermées, un sourire comme, ah, il y a ça aussi peut-être, enfin voilà. Il y a...
Et comment, du coup, pour ces deux rôles, parce que c'est quand même assez impressionnant, enfin, c'était votre premier quand même grand rôle, enfin, qui est double
en plus.
Comment il vous dirigeait, c'était, comment on fait passer là, parce que c'est deux jeunes femmes qui sont reliées, mais en même temps qui sont différentes, tout passe par la gestuelle.
Alors, c'est vrai que donc quand tout d'un coup j'ai reçu le rôle, j'étais super émue, etc. Puis il est parti en Pologne et on se donnait rendez-vous 10 jours avant le tournage où j'allais passer 10 jours en Pologne pour vivre un peu dans une famille polonaise, comprendre un peu ce que c'était que la vie polonaise. Mais voilà, d'ici là, j'avais peut-être 2 mois où il fallait que je me prépare et j'ai travaillé avec un professeur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jack Garfine et avec qui on avait lu le scénario pour essayer de le comprendre. Discuter. Et Krzysztof, de son côté, m'avait demandé de faire un dictionnaire de gestes très différent pour Véronica et Véronique, pour pouvoir arriver vraiment de la même façon que les réalisateurs, je crois, dessinent souvent parfois des storyboards pour se forcer à voir cette image, à la dessiner. Moi, c'était peut-être une façon de me forcer à m'incarner différemment si je joue l'une ou si je joue l'autre. Enfin, pour que vraiment, est-ce que ma poitrine sera comme ça, ou est-ce que je vais rentrer les épaules dans celle-ci, ou est-ce que ma façon de courir sera différente, est-ce que ma façon de... Ça m'avait beaucoup aidé de faire ce dictionnaire de gestes qu'il m'avait proposé. Il en avait utilisé quelques-uns aussi pour carrément les mettre en scène, comme le fait, par exemple, d'avoir très chaud et d'aller rafraîchir ma joue contre une vitre. Bon, c'était, par exemple, un geste que j'avais proposé. Je le faisais volontiers avec un verre ou une vitre et il l'a utilisé dans une des scènes. De trouver des gestes pour que vraiment ces personnages soient bien incarnés, bien que l'histoire soit poétique, de la rendre la plus personnelle possible et très incarnée.
Il y a un geste qu'elles font toutes les deux. C'est de se masser la paupière, la paupière inférieure.
Ça, c'est vrai.
Avec une bague.
Alors ça, c'était un geste qui était dans le scénario. C'est vrai que je crois que c'est une façon, en Pologne, enfin, quand on a un orgelet ou quelque chose comme ça, on met un métal et pour que cet orgelet puisse cesser aussi sur l'œil. Elle peut le soigner. Il y avait aussi un moment où elle voit un exhibitionniste et elle sort un baume à lèvres et elle se presse le baume à lèvres sur elle. Enfin, il y avait des gestes qui étaient déjà écrits et qui étaient à chaque fois très étonnants. Et qu'il fallait justement incarner, trouver aussi, c'était un langage autre. Moi, j'ai beaucoup aimé ça et de savoir comment raconter cette histoire avec ces langages-là, effectivement, le lacet, enfin, il y a tout ce genre de langages qui ne sont pas des vrais langages, on n'en tient pas compte habituellement et finalement...
Qui prennent là une importance particulière.
Si on les met côte à côte, au bout d'un moment, il y a toute une symphonie qui se raconte, quoi.
Et à propos de symphonie, évidemment, il y a la musique, vous en avez parlé, Irène Jacob, incroyable, extrêmement importante de Zbigniew Preissner. vous êtes bien à l'écoute de Tous les cinémas du monde sur RFI. Nous sommes en compagnie d'Irène Jacob pour parler des films du réalisateur Krzysztof Kieślowski et notamment donc de La double vie de Véronique dont on entend ici la musique. Vous aviez dû vous mettre au chant pour ce film.
J'avais pris quelques cours de chant, bien sûr, pour faire tout le playback des chants que je faisais dans La double vie de Véronique. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai continué à faire des cours de chant aussi, de jazz, mais voilà, c'était très fort de porter cette musique-là. Et la musique avait été composée avant le tournage, et pour beaucoup des thèmes, dont le premier qu'on a entendu dans l'émission, je me souviens que Christophe avait dit à Zbigniew Preissner, j'aimerais une musique qui évoque l'enfance, et je trouve que cette enfance perdue, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la musique des films de Krzysztof Kieślowski. Voilà, la solitude, une cloche, un son, comme dans le décalogue. Est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est relié et à quoi?
Alors, La double vie de Véronique ressort en salle en version restaurée 4K. Le film a été projeté cette année dans la section Cannes classique. Cannes, puisque le film avait été projeté en compétition, était reparti en 1991 avec trois prix. Vous, Irène Jacob, prix d'interprétation féminine. Oui. Ça devait être incroyable. Premier grand rôle.
Incroyable.
Coup d'essai, coup de maître, prix d'interprétation.
C'était incroyable. C'est vrai que c'était presque... Ça faisait beaucoup. En tout cas, j'étais déjà tellement touchée d'avoir ce rôle-là. Et puis ensuite, le prix. Il y avait quelque chose autour de ce film qui était comme dans un sentiment très amoureux. Je dis ça parce qu'il y a dans La double vie de Véronique une espèce de lumière, il y a cette musique, il y a cette lumière dorée, il y a ce sentiment très intime. Et est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on ne l'est pas tout à fait, qui ouvre au spectateur, je crois, quelque chose de très fort dans le cœur, en fait. Et c'est un film que je continue, à présenter bien souvent quand il m'arrive de voyager pour un tournage ou pour une pièce, je me retrouve parfois en Chine ou à Mexique ou au Brésil. Chaque fois, on me propose de passer à la Cinémathèque présenter un film de Krzysztof Kieślowski. Et bien que ce soit toujours émouvant pour moi, évidemment, de repasser par cette émotion-là, d'autant que Krzysztof Kieślowski est mort. Et donc, je le fais volontiers, d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur son cinéma, sur l'école de Wood, sur la façon de filmer, sur son rapport avec le chef opérateur, sur beaucoup, beaucoup de choses qui se discutent avec des jeunes étudiants. Donc, je le fais régulièrement. Mais aussi, c'est étonnant, c'est comme un passeport universel, c'est-à-dire que tout d'un coup, je peux rencontrer un réalisateur sud-coréen ou japonais ou américain ou russe qui me dira ah mais oui La double vie de Véronique, parce que c'est un film qui fait partie de l'histoire, enfin les films de Krzysztof Kieślowski, son écriture et son œuvre fait partie de l'histoire des réalisateurs de cinéma, dans le sens que il a eu une invention extraordinaire, un talent extraordinaire, et puis je crois qu'il a une émotion aussi dans ses films qui est passée à travers les cultures et le temps.
Alors, en 1994, donc 3 ans après la double vie de Véronique, vous retrouvez Kieślowski, produit par Marine Karmitz. Hein, le film La double vie de Véronique a eu un grand succès, notamment en France. Elle a trouvé des financements donc en France. Le grand producteur Marine Karmitz lui a proposé, suggéré de se lancer alors dans une trilogie, 3 couleurs, bleu, blanc et rouge, c'est les variations sur les couleurs et la devise d'ailleurs du drapeau français, bleu liberté, blanc égalité, rouge fraternité. Dans 3 couleurs rouges, Irène Jacob, vous incarnez une jeune modèle, mannequin, Valentine, qui va nouer une amitié un peu particulière avec un vieux juge misanthrope campé par Jean-Louis Trintignant. Lui passe ses journées à espionner les conversations téléphoniques de ses voisins.
C'est pas la peine d'aller faire les courses pour cette vieille dame. Elle a tout ce qu'il lui faut. Ce qu'elle veut, c'est voir sa fille, mais sa fille ne veut pas. Elle est déjà venue au moins 5 fois parce que sa mère a simulé un malaise cardiaque. Quand elle mourra, je serai obligé d'appeler sa fille parce qu'elle n'aura pas voulu la croire. Elle ne la croit plus.
Vous vous trompez.
Sur quoi?
Sur tout. Vous vous trompez sur tout. Les gens ne sont pas mauvais. Ce n'est pas vrai.
Si.
Peut-être peut-être parfois ils n'ont pas la force, mais...
Ce garçon qui a découvert que son père n'était pas son père, c'était votre petit ami ou votre frère?
Mon frère.
Quel âge a-t-il?
16 ans.
Il se pique depuis longtemps?
Comment vous savez?
C'était pas bien difficile à deviner.
On ne peut avoir que de la pitié pour vous.
Voilà, un extrait de Trois couleurs rouges de Christophe Kieslowski. Là encore, dans ce film, le cinéaste polonais interroge la part de hasard. Ces films sont un peu tous reliés par aussi donc ce mystère, mais le mystère presque du destin d'une vie.
Ouais, et parce que il y a ce personnage du juge, est-ce que c'est un en même temps celui qui réalise et qui manipule et mais il y a aussi il écoute effectivement les conversations alentour, il y a aussi ce côté de la censure effectivement qu'il a connu lui aussi avec en Pologne et puis il y a cette jeune femme qui dit mais peut-être que vous vous trompez. Peut-être que les gens n'ont juste pas la force. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment mauvais. Et l'autre lui dit, mais si, ils sont mauvais, ils sont comme ça. Et c'est presque, pour Christophe, c'était vraiment, il disait que ce film-là, c'était vraiment un dialogue entre l'expérience blessée et la jeunesse.
Candide un peu, non?
Oui, puis qui a besoin de, la nouvelle génération qui a tout simplement besoin de croire et qui peut-être que ces deux personnages sont deux voix qu'il entendait en lui, dans le sens qu'il était en même temps Valentine, qu'il était en même temps le juge d'une certaine façon, l'envie d'être cruel dans ses propos, d'être déçu, de ne plus y croire, et puis au contraire l'envie d'y croire. Et voilà, d'être dans ce, j'ai l'impression que quand on tournait ces scènes avec Jean-Louis Trintignant, Christophe avait cette habitude de se mettre toujours juste en dessous de la caméra. Il n'y avait pas de moniteur à l'époque, et donc il y avait la caméra qui nous filmait d'assez près. Il était juste en dessous, donc vraiment il faisait partie de la scène et il nous regardait. Il nous proposait de ralentir. Il nous proposait de. On sentait qu'il vivait la scène avec nous. C'était vraiment un troisième personnage. Et Jean-Louis Trintignant avait été un peu surpris au début, puis finalement il s'était complètement habitué à sa présence avec nous.
Et la relation dans ce film, c'est une très très belle relation ce type de relation, une amitié qui est finalement peu explorée au cinéma, enfin en tout cas dans ce film elle l'est, hein, entre Valentine et le juge, et une relation qui va évoluer donc au fil du film et se transformer en amitié.
L'autre jour au moment de partir, vous avez parlé de pitié. Après je me suis dit que c'était du dégoût. Vous voulez bien vous asseoir un moment? Vous voulez bien me faire un sourire? L'autre jour, après votre départ, vous avez pleuré.
J'ai pleuré.
Moi, j'ai éteint ma radio. Je me suis assis à mon bureau. Il n'y avait plus d'encre dans mon vieux stylo à plumes avec lequel j'ai écrit toute ma vie. Alors j'ai pris un crayon à papier et j'ai écrit des lettres à mes voisins et à la police. Je les ai postés le soir même, pendant que vous dormiez tranquillement.
Je ne dormais pas. Je suis allée au bowling.
Au bowling? Vous vous rappelez la conversation de ce couple, le garçon et la fille?
Je me rappelle.
Eux aussi, ils voulaient y aller ce même soir. Vous étiez peut-être à côté d'eux.
Peut-être.
Voilà, Trois couleurs rouges, Irène Jacob. C'est une relation d'amitié, mais en fait, on se dit que le personnage de Jean-Louis Trintignant serait plus jeune, ce serait une histoire d'amour. D'ailleurs, il l'évoque un peu. Et il y a aussi un thème du double, puisqu'il y a un autre personnage dans ce film qui est un jeune juge.
Joué par Jean-Pierre Lory, oui, effectivement, ils se répondent. C'est vrai que le thème, c'est pas tant l'amitié que la fraternité. C'est-à-dire qu'effectivement, comment deux personnes qui, au début, ne se supportent pas, sont insupportables l'un pour l'autre, vont tout de même s'apporter quelque chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça résonne très très fort. C'est-à-dire, dans des moments où il n'y a plus de débat, où il n'y a plus de dialogue possible, et tout d'un coup, il y a autre chose. Et on sent que, quand elle lui dit « mais ça vous fait plaisir alors de faire ça ?» Non, c'est pas, je veux dire, on sait pas. Ils se rencontrent, en fait, ils vont s'apporter beaucoup, peut-être parce que l'un était capable de s'indigner devant l'autre et que cette révolte-là lui a apporté quelque chose. Comme quoi, voilà, cette révolte...
Elle l'a réveillée, peut-être.
Voilà, elle l'a réveillée, mais tout mon travail dans le film Rouge, c'était de me dire, voilà, elle rencontre un juge, enfin, cette personne... qui est assez insupportable, qui la traite très mal. Elle vient lui ramener sa chienne qui s'est blessée. Et il se conduit, il écoute ses voisins. Enfin, c'est vraiment un personnage insupportable. Et elle va retourner chez lui. Elle va revenir. Et pourquoi ? Alors, c'était ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'on revient ? Parce qu'on est indigné, parce qu'on est révolté, parce que aussi, il y a quelque chose dans sa propre vie qui nous révolte, pour lequel on n'a pas de réponse. Et quand il va y avoir comme ça ce moment, il lui dit, vous avez votre frère. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas résoudre dans sa propre vie, mais on peut en trouver parfois auprès de personnes complètement inconnues. Mais voilà, quelque chose va entre eux, en tout cas, se passer, qui est de l'ordre de la fraternité, c'est-à-dire qu'ils peuvent se comprendre malgré tout.
Après Rouge, Kieslowski annonce qu'il arrête le cinéma. Mmh. Vous en aviez parlé avec lui, c'était pas du tout perceptible sur le tournage de ce film que ça serait. Bon, il se trouve qu'il meurt très tôt, donc 2 ans après, à l'âge de 54 ans, ce qui est extrêmement jeune. Mmh. Mais il avait déjà annoncé avant qu'il arrêtait le cinéma.
Ouais, donc en fait, c'est vrai que quand il l'a annoncé, c'était vraiment qu'il était très fatigué. Il avait vécu 10 vies en une, c'est-à-dire qu'avant les 3 couleurs, il avait fait donc le Décalogue, qui est aussi en rétrospective justement à la Cinémathèque en ce moment. Puis ensuite, il y a eu Double Vie de Véronique, puis 3 couleurs, et 3 couleurs qu'il a réalisées en 2 ans. Puis ensuite, il montait pendant qu'il tournait. Enfin, je crois qu'il a eu... Il était très fatigué, et l'idée même de se remettre sur un plateau de cinéma lui paraissait tout d'un coup, c'était trop d'émotions, il se voyait peut-être écrire pour d'autres réalisateurs, il se voyait pas, en fait, c'est qu'il souffrait du cœur, et cet essoufflement était vraiment... Peut-être qu'il pouvait le sentir comme un essoufflement moral, mais c'était un essoufflement physique, et qui s'est avéré finalement... il est mort de cette opération du cœur.
De cet épuisement. Et la Cinémathèque, vous le disiez, Irène Jacquable, lui consacre effectivement une rétrospective jusqu'à ce lundi 25 octobre. Alors l'institution, et c'est normal, c'est son rôle, hein, fait vivre la cinéphilie. Et j'aborde un thème qui va vous être cher aussi, Irène Jacquable, puisque vous venez d'être nommée à l'unanimité directrice de l'Institut Lumière de Lyon, qui est aussi un centre de la cinéphilie. Vous succédez à Bertrand Tavernier. On vous imaginait pas forcément dans ce rôle-là. Je sais pas si c'était dans les tuyaux, comme on dit, depuis plusieurs mois.
Ça a été une surprise, c'est sûr, pour moi. J'étais allée l'année dernière présenter beaucoup de films en tant que ce qu'ils appellent ambassadrice, donc sur toute la durée du festival.
Parce qu'il y a ce festival Lumière tous les ans au mois d'octobre.
Le festival Lumière qui dépend de l'Institut Lumière, dont le directeur est Thierry Frémaux, et qui en est là aussi une grande inspiration. Ça a été rêvé et présidé par Bertrand Tavernier pendant bientôt 40 ans. Et ils ont réussi à créer un endroit où on se dit, voilà, le cinéma, il est né ici. Les Frères Lumière, ils étaient nés ici. Ils ont pu inscrire cette rue comme la rue du premier film, trouver, géolocaliser un endroit pour le cinéma. Et puis de là, faire un festival et puis un institut. Mais toute cinémathèque, justement, ce sont des terres d'accueil pour des maisons, pour des films sans maison, quoi, en fait, peut-être, ou des films qui seraient abîmés, ou des films qui seraient oubliés. Et c'est de les ressortir en disant non, ces films sont vivants, ce sont des voix vivantes qui nous parlent aujourd'hui. Les jeunes réalisateurs, voilà, du passé sont toujours jeunes. Sur les jeunes d'aujourd'hui, et on se laisse surprendre et par leur inventivité et inspirer aussi. Donc, c'est vrai que Je trouve que l'Institut Lumière, bon, c'est un endroit vraiment merveilleux. Je suis tellement émue qu'on ait pu me proposer cette fonction, parce que c'est rejoindre une équipe formidable d'amoureux fous du cinéma qui sont très inspirés, qui c'est un accélérateur de pellicule, dans le sens que c'est vraiment il y a une énergie folle et autour du cinéma et comment faire rayonner le cinéma. Et puis moi j'avais des grands-parents lyonnais, mon père a grandi à Lyon, donc j'avais cette racine aussi lyonnaise qui était importante évidemment pour l'Institut. Donc on m'avait proposé de faire partie peut-être du conseil d'administration, et je m'étais dit pourquoi pas, ça serait une façon de me rapprocher aussi de ce que c'est que le travail d'une cinémathèque, parce que j'ai tellement d'admiration pour les avoir fréquentés énormément. C'est vrai, comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion de présenter les films de Kieslowski de par le monde et très souvent, et encore cette fois-ci dans cette rétrospective, de féliciter le travail énorme, de se dire on va mettre ce réalisateur à l'honneur 30 ans plus tard, avec une vraie rétrospective, avec des sorties en salle, avec des sorties DVD, avec on refait de nouvelles affiches. Je sais que bon, MK2 a été très présent. Rosalie Varda et la Cinémathèque française, l'Institut polonais, ça a été vraiment une collaboration de plusieurs forces ensemble. Et l'Institut Lumière, c'est aussi beaucoup de partenaires. C'est une énergie portée par une équipe vraiment extraordinaire. Et ce Festival Lumière, c'est un festival qui est contraire de la consommation, parce que c'est au contraire...
C'est vraiment une fête avec les cinéphiles, avec les spectateurs.
On peut renouer avec les cinéastes de l'histoire, les cinéastes de notre enfance aussi. Il y a aussi des avant-premières. Et puis, l'ADN du festival, c'est que chaque film est présenté par une personne. Et une personne qui l'a aimé. C'est comme on vous présenterait un ami. Et ça, c'est vraiment l'ADN de ce festival qui est vraiment extraordinaire, parce que là, à l'ouverture, c'était un film de Buster Keaton mis en musique en direct par Vincent Delerme. Alors, il y avait une halle de 5000 personnes dans la halle Garnier. En fait, la clôture, bon, ça a été la leçon de piano et le...
De Jane Campion, voilà, puisque Jane Campion recevait le prix
Lumière. Voilà. Donc, chaque fois, beaucoup d'émotions, un public est très présent, parce que c'est aussi le festival du public, et puis ce sont des maisons du public, et les cinémathèques, c'est aussi au cœur d'une ville, une histoire vivante, une histoire vibrante, un lieu de rencontre, voilà, là ils ont aussi évidemment cette rue qui doit se faire un centre, un cœur, comme ça, le quartier s'appelle Mon Plaisir, c'est quand même pas rien.
Ça ne s'invente pas.
Voilà, à Lyon. Et donc, voilà, une cafétéria, il y a des galeries photos, il y a une bibliothèque. Donc, il y a beaucoup de lieux de rencontre et puis surtout beaucoup de présentations. Ce qui est très important, puisque ça contribue finalement à ce que le cinéma, on aille au cinéma, mais le cinéma va aussi parfois dans les hôpitaux. Il y a eu des séances en prison pendant le festival aussi. Il y a aussi le
festival hors les murs.
Hors les murs, des nouvelles salles aussi qui auraient pu être détruites, des salles de cinéma du centre-ville de Lyon qui ont été reprises par l'Institut Lumière, restaurées pour en faire encore des salles d'art et essai. Moi, j'adore ce mot, art et essai. On le dit plus, on dit souvent cinéma d'auteur, mais c'est vrai que cinéma d'art et d'essai, je trouve que ça remet la lumière sur c'est un essai, c'est de l'art, c'est pas quelque chose qui doit fonctionner, marcher avec des chiffres et être rentable forcément. Et c'est vrai que on a fait beaucoup de mal au cinéma aussi en voulant le mettre que sous cet aspect-là de rentabilité et d'industrie, c'est-à-dire qu'il doit aussi pouvoir s'essayer librement et être soutenu par des instituts, des cinémathèques qui les restaurent, qui les remontrent et qui en font nos trésors et nos mémoires vivantes.
Formidable, donc Irène Jacob, nouveau visage de l'Institut Lumière. Vous restez un peu avec nous ? On va partir en Tunisie, puis à Ouagadougou, juste après cette pause musicale, une nouveauté choisie par notre réalisatrice Fanny Renard, c'est Santé, le nouveau single de Stromae.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas,
Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Stromae dans tous les cinémas du monde. On part en Tunisie maintenant où le documentaire El Mestansi, qui veut dire le disqualifié, est sorti en salle le 13 octobre. Pendant près de 15 ans, donc depuis 2005, le réalisateur Hamza Houni a suivi un jeune d'un quartier populaire de Tunis, Merez, qui aspire à vivre de son art, à savoir la comédie et la danse. Ce parcours de vie, et puis c'était aussi une histoire d'amitié, filmée entre l'époque de la dictature et la révolution, se regarde aussi comme un document sur le déterminisme social dans le pays, donc la Tunisie, et les ravages du chômage sur les jeunes. Il faut rappeler que 36% des jeunes sont au chômage actuellement. Notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise, a rencontré le réalisateur dans le quartier populaire.
Tu peux nous expliquer un peu où on est et pourquoi ça a servi de décor principal à ton nouveau documentaire, Le Disqualifié?
Là, on est à Mhamdia, dans un quartier qui s'appelle Cité Fatoma. Les jeunes, ils ne trouvent rien, parce que même maintenant, la maison de la culture, elle est fermée. Il n'y a pas des clubs, il n'y a rien. Hein. Mm-hmm. Il n'y a que les cafés. Il n'y a que les cafés, vraiment.
Hein. Tu as suivi pendant presque 15 ans le personnage principal du Disqualifié. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu as choisi ce personnage, qui est un ami à toi, et qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers lui?
À l'époque, dans quelques mètres, il y avait un café, là où on trouve les jeux de hasard, surtout les tiercés, les courses de chevaux en noir. Et dans ce café-là, on trouve tous les jeunes de cet quartier et même tous les quartiers qui sont à côté. D'accord. Et qui passent toute une journée là avec un rêve de gagner quelques dinars. Les gens pensent que les jeunes qui sont dans ce café-là, ils sont, entre parenthèses, des clochards, voilà, qui utilisent l'alcool, la drogue, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. C'est vrai, il y a ça, mais ce qui m'a attaché sur Mahrez, il a tout ça, mais il est aussi un artiste. Quand il parle de son rapport avec le bled, avec les quartiers, le Mhamdia, avec sa copine Malek, avec sa mère, moi je trouve qu'il est très représentatif d'une jeunesse, vraiment.
Pourquoi c'est aussi important pour toi en tant que documentariste d'être le plus brut possible?
Dans l'histoire de notre pays, surtout dans les derniers 15 ans, disons, de révolution et les 5 ans de l'époque de Ben Ali, pendant cette période, j'ai observé qu'il y a une histoire de ces pays-là. Une histoire qu'on les voit dans les médias. Une histoire qu'on l'écrit. Les politiciens, c'est une histoire symbolique. Je pense que par exemple, il me sent aussi, j'espère, hein, il raconte les vraies histoires de notre Tunisie.
Voilà, c'était le réalisateur tunisien Hamza Houni, rencontré dans les rues de Tunis, on l'a bien compris, hein, par notre correspondante Lilia Blaise. Tunis, hein, qui s'apprête à accueillir les Journées cinématographiques de Carthage. C'est l'autre grand festival de cinéma panafricain. L'autre, puisque les JCC vont prendre le relais du FESPACO. Le FESPACO s'achève ce samedi à Ouagadougou. On saura dans quelques heures quel film remporte le prestigieux étalon de Yenenga. En attendant le palmarès, on retrouve les coups de cœur, les films qui ont marqué notre envoyé spécial, Guillaume Thibault.
Premier coup de cœur, Feathers de l'Égyptien Omar El Zouhani. Long métrage puissant à tous les niveaux, images, décors, sons. Un monde sale, violent, poussiéreux, absurde, dans lequel une femme se bat pour faire vivre ses trois enfants, alors que son mari, dès le début du film, est transformé en poulet. C'est un très beau long métrage, inquiétant également, car le réalisateur imagine ce que pourrait être le monde de demain. Second plaisir cinématographique de Sophie Spaco, Eli Moffé, Desiree Chukwu et Desiree Arié. Très lent, ce film prend le temps, ce qui énerve certains. Pas de rebondissement non plus, on est au Nigeria, on suit les vies parallèles d'un homme, Mofé, la cinquantaine, électricien, et d'une jeune femme, Rosa, qui travaille dans un bar. La vie quotidienne, tout simplement, de ces deux personnes qui ont un point commun, ils rêvent de partir en Europe. Et puis un dernier petit coup de cœur, celui du rire, avec le seul film burkinabé en compétition, Les Trois Lascars de Boubacar Diallo. Le scénario est simple, trois hommes, trois copains décident de partir avec leur maîtresse, leur deuxième bureau, comme on le dit ici, en week-end. Leur plan, faire croire à leurs épouses qu'ils partent en séminaire à Abidjan. Problème, l'avion s'écrase. Ils sont donc morts, mais bien vivants, et vont devoir rentrer chez eux. Pour Boubacar Diallo, faire une comédie avait tout son sens vu la situation difficile que traverse la sous-région.
Dans le contexte actuel, c'est vrai qu'avec la chape de la pandémie qui pèse sur tout le monde, avec la pression du terrorisme dans tout le Sahel et un peu partout, tout le monde a besoin d'une bouffée d'oxygène. D'où cette proposition, d'où cette idée de comédie. Parce que le FESPACO, c'est un grand moment de rencontre. C'est bien qu'on puisse se poser un peu, rigoler un peu, partager une émotion positive.
Quelques mots justement sur le FESPACO. Le fait que le FESPACO se tienne, existe, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur.
Absolument, c'est un moment où tous les projecteurs sont braqués sur le Burkina Faso et de façon positive, à la différence de l'actualité des attentats, des explosions et tout et tout. On parle du Burkina Faso dans le bon angle, dans la bonne lumière et ça c'est vraiment important pour l'ensemble des Burkinabés.
Le FESPACO, cette année, le thème, c'est les nouvelles générations. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes ?
Moi, je leur dis qu'il ne faut pas freiner son imagination. Tous les genres de cinéma peuvent exister dans le cinéma africain comme ailleurs. Ne jamais renoncer à son rêve, mais savoir qu'il faut être persévérant. Il faut du travail pour arriver à un bon résultat. Il faut travailler. En même temps, il faut travailler en s'amusant. C'est ce que nous avons réussi à faire sur nos plateaux. On essaie de s'éclater parce que ce que je dis à mes collaborateurs, si nous, on s'amuse à faire ce film, mais le public va s'amuser à le voir.
Le film Les Trois Lascars de Boubacar Diallo sort le 5 novembre prochain dans toute la sous-région. Star en Afrique et bien au-delà, le leader de Magic System, Assalfo, est également au FESPACO. Il est membre du jury dans la catégorie reine, celle des longs métrages. Entrepreneur, engagé aussi pour la formation des nouvelles générations, engagé également pour relancer l'économie culturelle dans la sous-région. Il évoque ici l'importance de ce FESPACO 2021.
C'est la culture qui est en train de reprendre son droit de vivre, son droit de citer, son droit de... Voilà. Donc pour moi, c'est une belle renaissance de la culture qui a été verrouillée pendant plus d'un an et demi. Et être à Ouaga aujourd'hui, surtout en tant que membre du jury, c'est quelque chose de très fort.
On parle beaucoup de financement aussi cette année. Quel est votre regard sur ce financement de la culture, particulièrement du cinéma ?
C'est vrai que c'est un regard optimiste, mais je ne suis pas cinéaste, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde du cinéma. Et aujourd'hui, avec le FESPACO, je vois cet engouement autour des films, ces salles qui sont combles. Je vois cette mobilisation autour du festival qui dit que le cinéma a encore un très bel avenir. Et je crois qu'au niveau des investissements, voilà, tout est réuni pour qu'on accompagne le cinéma. Même moi, je sors du FESPACO, je crois que je vais quand même essayer de m'investir dans le cinéma parce qu'il y a de l'avenir.
17 films ont donc été en compétition cette semaine à Ouagadougou. La cérémonie de clôture du FESPACO se tient ce samedi. Et s'il n'a bien évidemment pas le droit de parler des films, le président du jury, le Mauritanien Abderrahmane Sissako, a bien voulu évoquer ses créations. Il est plus que satisfait de la qualité des longs métrages.
Le FESPACO 2021, je dirais qu'il y a la diversité. Mais la diversité a toujours été présente vraiment au FESPACO. Et donc il y a une diversité, mais surtout, personnellement, je découvre de jeunes cinéastes très talentueux. Et ce qui veut dire que la sélection de cette année est une très bonne sélection. Je peux le dire, c'est un constat du jury.
Il y a des choses qui vous ont étonné ?
Oui, oui, oui. Vous savez, même quand on est cinéaste, on aime être étonné. Aller au cinéma, c'est être étonné aussi par une écriture cinématographique. Oui, j'ai été touché, étonné, touché par des films, par des jeunes cinéastes que je connaissais pas. Oui.
Grande qualité d'image, de son. Si on rentre un peu dans la technique aussi, il y a une sorte de montée en puissance.
Il y a des faiblesses aussi, hein, et dans l'image aussi, parfois dans le son, mais qui aussi s'explique par le manque de moyens de production, parce que le cinéma il coûte cher, il faut de l'argent. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, et parfois on se contente de peu, et donc la qualité baisse. Mais de façon générale, non. C'est de très bonne qualité, l'image, le son, il y a une narration, il y a de très bons monteurs aussi. C'est vraiment... je suis content.
Voilà, il est content, Abderrahman Sissako. C'était un reportage à Ouagadougou de l'envoyé spécial de RFI, Guillaume Thibault. C'est ainsi que s'achèvent tous les cinémas du monde. Merci, Irène Jacob.
Merci beaucoup, c'était vraiment un très bon moment.
On peut donc vous revoir actuellement en salle dans La double vie de Véronique et dans Trois couleurs rouges. Sachant que les deux autres films de la trilogie Trois couleurs, donc bleu et blanc, ressortent également en copie restaurée. Et que la rétrospective Kieslowski, c'est à la Cinémathèque française à Paris jusqu'à ce lundi. Et puis bien sûr, hein, tous ces films sortiront en DVD et Blu-ray le 2 novembre chez Potemkin Film. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie d'Antoine Debecq pour parler de Claude Chabrol, à qui il consacre un livre somme. D'ici là, bonne semaine à tous.
Le ciel d'Afrique était si serein. Le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Le lendemain, toujours à la même heure, de sans retour, on planait dans la nuit. Et sur les arbres, autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris.
RFI.